Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi exactement. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Il était l'un des 8 lanceurs d'alerte qui avaient tenté d'avertir leurs confrères d'une nouvelle épidémie. Le médecin chinois Li Wenliang est mort ce matin de la maladie liée au nouveau coronavirus. Il compte parmi les 636 cas mortels dénombrés à ce jour par les autorités sanitaires chinoises.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le climat de tension met-il en péril les avions civils et leurs passagers au Moyen-Orient?
Et la réponse est oui, après que l'Iran a abattu par erreur un Boeing le mois dernier qui venait de décoller de l'aéroport de Téhéran ce matin, un avion avec 172 personnes à bord s'est posé en urgence sur une base militaire russe dans le nord-est de la Syrie.
Dans un contexte de remise en cause des traités existants par les États-Unis et la Russie, notre sécurité passe par une plus grande capacité d'action autonome des Européens.
Déclaration ce matin du président Emmanuel Macron à l'occasion de son discours sur la dissuasion nucléaire française. La production industrielle a connu une contraction en fin d'année bien supérieure aux attentes et pénalisée notamment par les grèves dans les transports. Enfin, à l'occasion du début de l'opération février sans supermarché, invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Julie Bernier, marraine de cette initiative et créatrice du site Sortez tout vert. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors que le gendre de Donald Trump, l'américain Jared Kushner, présentait hier dans une réunion informelle aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU son plan de paix, où place-t-il la paix sur la carte? C'est la question que nous poserons à notre invité, le géographe palestinien Khalil Tafakji, auteur de 31 degrés nord, 35 degrés est, à la découverte qui nous rejoindra donc dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Si personne ne peut être tenu pour responsable de l'apparition de la maladie, les autorités chinoises sont-elles coupables en revanche de ne pas avoir réagi suffisamment tôt à l'apparition de l'épidémie de coronavirus? Ou pour le dire autrement, en plaçant la stabilité de son pouvoir au-dessus de la santé de ses citoyens, le régime de Pékin a-t-il préféré combattre la vérité plutôt que le virus? Quoi qu'il en soit, et depuis ce matin, la question a brutalement ressurgi après la mort à 34 ans d'un homme, le docteur Li Wenliang, qui avait été l'un des tout premiers à donner l'alerte. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Pour avoir tiré l'alarme, c'était fin décembre, ce médecin de Wuhan avait même été sanctionné par la police qu'il avait accusé à l'époque l'autre de propager des rumeurs.
Oui, tout à fait Thomas, c'était le 1er janvier. Li Wenliang, médecin ophtalmologue à l'hôpital de Wuhan, est arrêté avec cet autre médecin deux jours avant. Cet homme de 34 ans a envoyé un message à ses collègues. Il s'inquiète de ces 7 malades qu'il a vus à l'hôpital où il est lui-même soigné. Tous présentent des symptômes proches d'un SRAS, tous travaillent au même endroit, le marché aux animaux de la ville. Deux jours après son arrestation, Li Wenliang doit signer un procès verbal. Il est accusé de propager de fausses informations, de perturber l'ordre social. Il est menacé de poursuites. Et c'est ce même procès verbal, marqué de ses empreintes digitales à l'encre rouge, comme du sang à moitié effacé, qui circule désormais sur les réseaux sociaux. Li Wenliang, qui est donc mort cette nuit dans cet hôpital, assailli par les médias. Entre cette autocritique qu'il a été obligé de signer et sa timide réhabilitation, il aura fallu attendre de précieuses semaines et des centaines de morts, car ce n'est que le 20 janvier qu'un juge de la Cour suprême chinoise a convenu en des termes choisis qu'il aurait fallu écouter ses appels à mettre un masque et à se protéger du virus. Sur son lit d'hôpital, où il a continué à communiquer jusqu'au bout, le visage à moitié dissimulé par ce masque, le docteur Li n'a cessé de prôner le sens des responsabilités, le devoir de vérité. Père d'un enfant de 5 ans, il allait être à nouveau papa dans quelques jours. Ses parents et son épouse enceinte ont eux aussi, Thomas, contracté le virus.
Merci Claude Guibal. Alors ce matin, sa mort a aussitôt été suivie par une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux à l'encontre des responsables locaux qui ont semblé davantage chercher donc à étouffer l'affaire qu'à enrayer l'épidémie. Et d'ailleurs, anticipant la stupeur, plusieurs médias publics, dont la télévision nationale CCTV et le quotidien Global Times, qui avaient dans un premier temps annoncé son décès dès hier soir, ont ensuite retiré l'information des réseaux sociaux. Toujours est-il que ce matin, le décès donc confirmé de Li Wenliang a non seulement suscité la stupeur, mais bien au-delà, déclenché une vague de colère de très nombreux internautes chinois qui voient désormais en lui un véritable héros national. C'est une correspondance à Pékin signée Dominique André.
Les autorités chinoises font face à une contestation qu'elles n'attendaient pas sur les réseaux sociaux. Dès la nuit dernière et l'annonce du décès du jeune médecin, Weibo, le Twitter chinois, a été envahi de commentaires sur un héros qui a donné l'alerte sur le coronavirus au prix de sa vie, écrit l'un de ses confrères à Wuhan. De nombreux messages déchirants sur Internet sont accompagnés de photos, de dessins, de poèmes et de messages « Je ne comprends pas, je ne peux pas, adieu docteur Li » a été tracé dans la neige tombée sur Pékin. L'émotion a pris un tour politique, le mot dièse « Je veux la liberté d'expression » est apparu sur les réseaux sociaux puis a été censuré, ainsi que le thème « Le gouvernement de Wuhan doit des excuses au docteur Li ». La mairie de Wuhan a présenté ses condoléances, mais le docteur Li, héros national de l'opinion publique aujourd'hui, contraste avec les responsables locaux qui ont voulu cacher la gravité de l'épidémie. Pour répondre à la colère qui monte, le pouvoir central envoie à Wuhan une équipe d'enquêteurs de la lutte anticorruption. Leur mission, annonce Pékin, faire la lumière sur les circonstances qui entourent la mort du docteur Li Wenliang, telles qu'elles sont rapportées par les masses, lit-on dans le communiqué. La semaine dernière, la Cour suprême avait déjà réhabilité les 8 lanceurs d'alerte, ce qui est rarissime.
Et ce matin, le bilan donc officiel de l'épidémie de coronavirus fait état de 636 morts et plus de 31 000 personnes contaminées en Chine continentale. À l'étranger, 240 cas de contamination ont été confirmés dans une trentaine de pays et territoires, dont 2 mortels à Hong Kong et aux Philippines. 3 jours après le fiasco du premier vote des primaires présidentielles démocrates, l'Iowa reste dans l'impasse selon les résultats portant sur 100% des bureaux de vote publiés. Pete Buttigieg et Bernie Sanders sont toujours au coude à coude. 26,2% des suffrages pour le premier contre 26,1% pour le second, tant et si bien que le parti n'a toujours pas proclamé de vainqueur définitif à ce stade. Les États-Unis ont annoncé hier avoir éliminé au Yémen Qassem al-Raimi, le chef du groupe Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considérée par Washington comme la branche la plus active aujourd'hui de la nébuleuse islamiste. C'est notamment sous sa direction que l'ACPA avait revendiqué la fusillade perpétrée début décembre dans une base militaire américaine en Floride ayant tué 3 marins. Et puis, rappelons que c'est également de cette branche d'Al-Qaïda que s'étaient réclamés les frères Kouachi, auteurs de l'attaque au siège de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. Parce qu'Israël considère aujourd'hui l'Iran comme sa principale menace dans la région. Voilà plusieurs années déjà que l'État hébreu mène régulièrement des attaques contre des positions de son allié indéfectible, l'armée syrienne. Et c'est ainsi que la nuit dernière, 4 avions de chasse ont encore tiré plusieurs missiles contre des cibles situées en périphérie de Damas. Sauf qu'au même moment, un avion de ligne effectuant une liaison entre Téhéran et la capitale syrienne avec 172 passagers à bord se trouvait, lui, en approche en vue de son atterrissage. Alors, après avoir évité les tirs de riposte de la défense antiaérienne syrienne, l'appareil a finalement pu atterrir en urgence et sans dommage sur un aérodrome voisin. Le pire a pu être évité. Reste à présent les accusations portées ce matin par Moscou qui soupçonne Israël de s'être servi de l'Airbus comme bouclier pour échapper à une riposte syrienne. Les précisions de notre correspondant dans la région, Aurélien Colli.
Pour le ministère russe de la Défense, c'est l'action rapide des aiguilleurs du ciel qui a permis d'éviter une catastrophe. La 320 était en approche sur Damas quand plusieurs missiles israéliens ont frappé des cibles dans la banlieue de la capitale syrienne. L'avion de ligne s'est alors retrouvé dans une zone mortelle, dans le viseur des systèmes syriens de défense antiaérienne, déplore Moscou, en accusant Israël de se moquer totalement de centaines de vies de civils innocents. Pas de réaction ce matin d'Israël, qui de manière générale ne commande jamais ses raids aériens en Syrie, qui vise des cibles iraniennes alliées au régime de Bachar al-Assad. En revanche, ce n'est pas la première fois que Moscou accuse l'État hébreu de jouer avec le feu, d'exploiter le trafic aérien dans le ciel syrien pour échapper à la défense aérienne du régime. Il y a un an, Moscou accusait déjà Israël de provocation parce que des chasseurs israéliens s'étaient dissimulés dans le sillage d'avions de ligne pour aller frapper en Syrie. En septembre 2018, c'est un avion de reconnaissance russe qui avait été abattu par erreur par l'armée syrienne alors qu'elle tentait d'intercepter une frappe israélienne.
Et pendant ce temps, les forces du régime syrien, aidées de son allié russe, continuent de progresser dans la province d'Idleb, dernier territoire tenu par des insurgés dans le nord-ouest du pays, ce à la faveur d'une offensive destructrice. Hier, 17 civils, dont des enfants, ont été tués. Au même moment, face au drame humain provoqué par cet assaut dans la région, les Occidentaux du Conseil de sécurité de l'ONU, réunis en urgence, ont eux vivement condamné un carnage. Quant à la Turquie, tout en annonçant ce matin avoir envoyé de nouveaux renforts militaires sur le le terrain où elle soutient des rebelles. Elle continue de sommer le régime de Bachar al-Assad et Moscou d'arrêter leur offensive. Au point d'ailleurs de se demander si ces combats qui opposent l'armée turque d'un côté et les forces syriennes de l'autre pourraient mettre fin à la singulière alliance stratégique entre Ankara et Moscou. Car si jusque-là le président Recep Tayyip Erdogan a adressé l'essentiel de ses remontrances à Damas, il a néanmoins sommé la Russie de faire davantage d'efforts pour museler le régime de Bachar al-Assad. Ou quand la question d'Idlib vient donc rappeler la complexité des rapports entre la Turquie et la Russie, adversaires sur le terrain en Syrie, mais contraints en même temps de maintenir malgré tout de bonnes relations, tant leurs intérêts sont désormais inextricables dans plusieurs domaines, de l'énergie à la défense en passant par le commerce. Et c'est encore dans ce contexte, marqué donc par de nouveaux rapports de force entre puissances nucléaires dans des zones de friction, comme par exemple la Syrie, mais aussi la Libye, que le président Emmanuel Macron livre depuis ce matin sa vision de la stratégie de défense et de dissuasion nucléaire française. Un discours qui promet notamment d'être attentivement suivi par ses partenaires européens. Lundi dernier, en déplacement à Varsovie, le chef de l'État français, également chef des armées, avait promis de prendre en compte les intérêts de ses voisins. Alors qu'en a-t-il été ce matin? Cette fois-ci devant un parterre d'officiers à l'école de guerre à Paris, Emmanuel Macron s'est-il de nouveau présenté en fervent avocat d'une autonomie stratégique accrue de l'Europe? Élément de réponse avec Nathalie Hernandez.
À l'instar du général de Gaulle en 1962 qui avait annoncé la création d'une force de frappe nucléaire, Emmanuel Macron a choisi d'exposer sa vision stratégique de défense à l'école de guerre devant les chefs militaires de demain. Bien sûr, la dissuasion reste la garantie ultime des intérêts vitaux de la France, mais pas seulement ses intérêts. Les vitaux français ont désormais une dimension européenne.
Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire française dans notre sécurité collective. Les partenaires européens qui souhaitent s'engager sur cette voie pourront être associés aux exercices des forces françaises de dissuasion. Ce dialogue stratégique et ces échanges participeront naturellement au développement d'une véritable culture stratégique entre Européens.
Rappelons un contexte mondial instable où le droit international est bafoué par certains, où les menaces sont protéiformes, telles le terrorisme, où l'on assiste à la tentation d'une course à l'armement entre puissances, l'Union européenne doit s'affirmer et parler d'une même voix. Quant aux opposants farouches à la bombe atomique, Emmanuel Macron a dit les entendre tout en réaffirmant que la dissuasion nucléaire est là afin d'empêcher la guerre. C'est et cela restera la doctrine française.
En fin d'année dernière, la production industrielle de la France a connu une contraction nettement supérieure aux prévisions des économistes selon les données publiées ce matin par l'INSEE. Celle-ci aurait chuté de 2,8% en décembre par rapport au mois précédent. C'est tout simplement le plus fort recul enregistré depuis janvier 2018. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Alors ce recul pourrait notamment s'expliquer par des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement perturbés par les grèves dans les transports, même si en réalité, Marie, ce ralentissement s'observe dans d'autres pays européens.
Oui, une baisse plus importante encore a été enregistrée en Allemagne, 3,5% de production industrielle en moins au mois de décembre et 7% sur un an. Pour les Allemands, ce qui a pesé clairement, ce sont les tensions commerciales entre Washington et Pékin et les craintes d'un Brexit dur. Pour la France aussi, cela peut expliquer une partie de la baisse de la production observée en décembre, mais la France étant beaucoup moins exportatrice de biens manufacturés, cela n'aura pas joué autant que chez nos voisins allemands. Ce recul de la production manufacturière en France n'est pas cantonné au mois de décembre. Sur l'année 2019, la baisse est de 0,7%, mais le mois de décembre accuse une chute plus forte et les industriels disent avoir eu effectivement des problèmes d'approvisionnement du fait du blocage des transports. Les grèves expliquent donc une partie de cette contraction. On la retrouve dans toutes les activités agroalimentaires, raffinage, biens d'équipement, automobile, construction, chimie, le textile. Il n'y a en fait que dans la pharmacie qu'il y a un mieux au mois de décembre. Alors cette baisse de la production a eu un effet sur le produit intérieur brut, le PIB, qui a diminué de 0,1% au quatrième trimestre 2019. Elle a eu aussi un effet sur les emplois dans l'industrie. Alors que depuis quelques trimestres, on crée plus d'emplois qu'on en détruit dans ce secteur, au quatrième trimestre, on en a à nouveau détruit. C'est un retournement qui est à surveiller, mais il n'a pas eu d'effet pour le moment sur les créations d'emplois totales dans le secteur privé, qui ont augmenté de 0,2% au dernier trimestre, soit 40 700 créations création nette d'emplois selon l'INSEE, mais ces chiffres sont encore provisoires.
Merci Marie Viennot. Depuis lundi, c'est le même dialogue de sourds, théâtre d'un bras de fer permanent entre opposition et majorité. La commission spéciale sur les retraites à l'Assemblée risque de s'arrêter au milieu du guet, sans avoir balayé l'ensemble de la réforme. Les travaux qui devaient initialement se terminer aujourd'hui s'apprêtent à se poursuivre ce week-end et à s'interrompre en milieu de semaine prochaine. Hier soir, la commission a abordé la première ordonnance prévue dans le projet de loi du gouvernement. L'occasion pour les opposants de critiquer la proportion de recours à cette procédure dans le texte, dénoncée par ailleurs par le Conseil d'État comme faisant perdre la visibilité d'ensemble du projet de loi. Enfin, précisons qu'une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre la réforme a d'ores et déjà été fixée au 20 février. Après 4 ans de procédure, la plateforme de livraison de repas Deliveroo a été condamnée pour travail dissimulé à la suite de la requalification du contrat de prestation de service de l'un de ses coursiers en contrat de travail. L'entreprise a été condamnée à verser 30 000 euros à son ancien livreur. Damien Mestre, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une première en France pour cette entreprise et toute la question désormais, Damien, est de savoir si cette décision pourrait faire ou non jurisprudence.
Oui, c'est d'ailleurs un vieux combat des livreurs engagé depuis 2016. Ils réclament d'être reconnus comme de véritables salariés, ce qui leur ouvrirait l'accès à tout un tas de droits comme des congés payés par exemple. La justice va d'ailleurs plutôt dans leur sens car cette condamnation ne tombe pas du ciel, elle conforte justement la jurisprudence. En 2018, c'est la Cour de cassation qui rendait un arrêt similaire concernant une autre plateforme aujourd'hui disparue. Et puis partout en Europe, Deliveroo est également condamné. Aux Pays-Bas l'an dernier, 2000 livreurs ont été requalifiés. Pour Jérôme Pimaud, le cofondateur du principal syndicat de livreurs, c'est donc le début d'une réaction en chaîne.
Déjà, on n'avait pas attendu cette décision pour avoir quand même beaucoup de livreurs qui voulaient être qualifiés. Kevin Mention, pour ne parler que de lui, l'avocat donc qui a décroché cette condamnation, a presque 200 dossiers dans ses tuyaux, plus d'autres à venir, on va dire boostés par cette décision. Et puis surtout, en fin de compte, c'est un outil, on va dire, pour pas dire une arme, parce que si jusqu'à présent on supputait que les plateformes faisaient du salariat déguisé, pour maintenant on voit bien que ça a été condamné, ça a été statué.
Reste donc une question, Thomas. Est-ce que cette condamnation va bouleverser le modèle de ces plateformes? Deliveroo assure que c'est déjà fait puisque l'entreprise indique que depuis 2016, ses conditions de travail ont évolué et elle assure qu'aujourd'hui, ce jugement ne s'appliquerait pas aux livreurs avec qui elle collabore.
Merci Damien Mestre. Sans surprise, l'emblématique directrice générale d'Engie, Isabelle Cochet, a été débarquée hier par le conseil d'administration du géant français de l'énergie, déstabilisé depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années déjà, par une lutte de pouvoir. Seule femme dirigeante d'une entreprise du CAC 40, elle se voyait notamment reprocher de ne pas être assez opérationnelle. Et pourtant, après avoir vendu plusieurs centrales électriques hautement polluantes, mais aussi après avoir investi dans les énergies renouvelables, l'entreprise avait renoué avec la croissance. Mieux encore, elle avait réussi à réinventer Engie pour en faire un moteur de la transition verte, sauf que sa volonté de faire de l'énergéticien un leader de l'énergie bas carbone ne faisait visiblement pas l'unanimité. Alors faut-il voir dans ce licenciement un acte de résistance du lobby des énergies fossiles comme du nucléaire? Quoi qu'il en soit, le départ donc de l'ancienne présidente, de directrice pardon, générale d'Engie, vient jeter une ombre sur la sincérité de la conversion écologique de l'État, aujourd'hui actionnaire à 24% du capital d'Engie. Invité de la rédaction aujourd'hui en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu, Pays Basque, Julie Bernier, blogueuse, créatrice du site Sortez Tout Vert et marraine de l'opération Février sans supermarché. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Cette initiative, donc Février sans supermarché, lancée par une association écologiste suisse, Envers et Contre Tout, en est à sa 3e édition. L'idée, c'est évidemment de redécouvrir les épiceries de quartier, de soutenir aussi les petits producteurs. Pour autant, Madame Bernier, diriez-vous que l'objectif est véritablement de boycotter les grandes surfaces, étant entendu que pour certains produits cela peut paraître parfois même difficile, ou bien plutôt d'interroger finalement le consommateur sur ses habitudes alimentaires?
Eh bien, les deux, en fait. L'idée, ça va être à la fois de boycotter les grandes surfaces parce que on va être invité à questionner le système qui a été mis en place par la grande distribution, qui a fait quand même beaucoup de tort à notre système alimentaire, et à la fois de favoriser quelque chose de bien plus vertueux, donc avec effectivement ce que vous disiez, donc des produits issus de production locale, de saison, etc. Si En effet, pendant le mois, vous avez besoin d'aller chercher, je ne sais pas, du papier toilette ou autre dans une grande surface, ce n'est pas un drame. Mais l'idée, en tout cas, ça va être de limiter cette utilisation des grandes surfaces.
Vous évoquez, Julie Bernier, le retour à la consommation locale, mais quelles sont les solutions concrètes pour pallier l'usage des supermarchés ?
Alors, par rapport aux défis au défi février sans supermarché, on a mis en place des groupes locaux, territoriaux, que ce soit en Belgique, en Suisse et en France. Sur ces groupes Facebook, vous allez avoir des cartes interactives, des personnes qui vont vous donner des lieux de distribution alternatifs, donc des marchés, des épiceries bio, vrac, pourquoi pas des cueillettes ou autres, en tout cas des alternatives de distribution. Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir vous aider. Sinon, effectivement, quand on est un peu tout seul, ça peut être assez difficile de changer sa manière de consommer.
Des groupes locaux, donc, ça veut dire qu'il y a aussi des difficultés. Quelles sont-elles, ces difficultés rencontrées par les consommateurs qui participent à l'opération Février sans supermarché ?
Quelles sont les difficultés ? Alors, ça dépend si on est en ville ou en campagne. Pour être honnête, en ville, par exemple, on va avoir peut-être un peu plus d'épiceries ou d'alternatives qui vont être disponibles au niveau local. Par contre, ça va peut-être être un petit peu plus difficile de s'y rendre. En campagne, on va avoir peut-être un peu plus d'alternatives facilement. Par contre, il va falloir peut-être faire un peu plus de voitures. Mais surtout, je pense que le plus difficile, c'est de trouver ces alternatives de consommation. Et c'est là où on intervient avec ces groupes Facebook. Mais sinon, autrement, je ne pense pas que ce soit compliqué. Je pense qu'effectivement, c'est un changement, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas forcément compliqué, notamment parce qu'on met ces ressources à disposition.
L'opération dure un mois, durant tout le mois de février. Mais est-ce qu'à long terme, c'est possible de bouder les supermarchés ?
Oui, je pense que c'est tout à fait possible. On a déjà eu des retours très positifs de personnes qui nous ont dit « Depuis le défi de 2018, par exemple, je n'ai pas remis un pied dans un supermarché. » Donc c'est vraiment possible. Nous, en tant que porte-parole, c'est aussi quelque chose qu'on fait au quotidien. On essaye toujours d'aller vers le plus vertueux, le plus local, les circuits courts et autres. Donc, on essaye aussi de prouver que tout au long de l'année, c'est possible. Mais en tout cas, on se flagelle pas si un jour on doit aller au supermarché. C'est vraiment pas ça le but. Le but, c'est vraiment de recréer de la solidarité, du lien social, de re-questionner les modes de consommation et surtout de soutenir des producteurs qui font les choses bien, des producteurs locaux, des producteurs bio, parce que ce sont eux qui ont le plus souffert de l'installation de la grande distribution.
On peut se dire que consommer de cette manière, ça a forcément un coût. Et se passer des supermarchés, est-ce que c'est réservé finalement à une partie de la population plutôt aisée financièrement ?
Alors, on pense que non. En fait, c'est évident que vous ne pouvez pas changer juste simplement de distributeur et, disons, calquer votre caddie sur des distributions bio, en circuit court, etc., sans changer votre caddie. On peut pas juste calquer son caddie sur une distribution plus vertueuse, sans espérer que sa carte bancaire n'y reste pas. L'idée, ça va être vraiment de questionner son caddie. Et ce qu'on essaye de montrer, c'est que ça coûte moins cher d'acheter l'essentiel chez des commerçants locaux plutôt que du superflu en grande distribution. Donc, c'est ça que le défi février sans supermarché est censé amener, un retour vers l'essentiel, vers du moins peut-être, mais du mieux, meilleur pour la santé, meilleur pour l'environnement et meilleur pour les producteurs.
Vous l'évoquiez il y a quelques secondes, certains ou certaines disent qu'en milieu rural, c'est plus simple de se passer de supermarché. D'autres disent qu'en ville, c'est également plus simple. Oui. Finalement, tout le monde y trouve son compte.
Finalement, tout le monde y trouve son compte. En fait, il n'y a pas de plus difficile ou de plus... À partir du moment où il y a un changement à faire, on a des résistances qui sont purement cognitives. Notre cerveau déteste les changements. Mais je ne pense pas que ce soit une difficulté à proprement parler. En tout cas, on essaye de faire un maximum pour que ce ne soit pas si difficile. Et il y a quelque chose qui est à souligner aussi, c'est que ça apporte aussi beaucoup de joie de mettre en alignement ses valeurs, ses paroles et ses actions. Et on veut aussi prouver par ce défi qu'on peut avoir une consommation plus vertueuse, être fier de soi et avoir un impact positif au niveau local et même au niveau global grâce à des produits qui sont beaucoup plus vertueux pour l'environnement par ce biais-là.
Merci Julie Bernier, marraine donc de l'opération Février sans supermarché, d'avoir répondu à notre invitation en direct et en duplex de chez nos confrères de France Bleu Pays Basque. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Zéro déchet, manuel d'écologie quotidienne, publié aux éditions Solar. Et merci également à Stéphane Jeunesse. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Nuageux sur un large quart nord-ouest du pays jusqu'au Hauts-de-France. Partout ailleurs, le soleil devrait s'imposer assez largement. Quant aux températures, elles afficheront entre 7 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.